wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour, bienvenue dans I Feel Good. Comme d'habitude, 30 minutes pour partager les ondes positives d'un invité qui va nous donner son envie de s'engager, son envie de bouger, d'où cette envie est née, comment elle s'est construite au fur du temps, et puis comment à nous, auditeurs, ça peut nous apporter, nous aussi, l'envie d'avancer. Madame, mademoiselle, messieurs, destination l'Afrique avec mon invité Véro Dikipar.
So good, so good.
Bonjour Véro.
Bonjour Christophe.
Alors vraiment beaucoup plus près du micro. Et j'ai un petit doute sur le fait que le micro soit bien allumé. Comme ça, ça devrait aller beaucoup mieux.
Bonjour Christophe, merci de m'accueillir.
Mais on est heureux de vous accueillir, Véro. Alors pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et en vidéo, on va parler d'Afrique. À première vue comme ça, vous n'êtes pas né en Afrique.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie d'Afrique ?
Parce que j'ai connu pas mal d'Africains et il y a tout un aspect de leur culture qui me plaît énormément, surtout ce côté solidarité, entraide, le partage. Et je trouve que c'est des valeurs qu'on perd dans les pays où c'est un peu plus modernisé. Et ce côté-là m'attirait vraiment. Et puis en plus, savoir que c'est des pays qui sont très en difficulté depuis longtemps et qui ont réellement besoin d'aide, quoi.
Tout ça, aujourd'hui, ça a abouti avec un projet très concret. On en dit deux mots de ce projet très concret, c'est quoi ?
Alors, nous avons le souhait. Alors, quand je dis nous, c'est la station Afrique Positive qui se trouve en Loire-Atlantique. Et moi-même et deux amis qui sommes partis au Togo, nous avons le souhait de faire partir un conteneur au Togo. L'objectif serait qu'il parte vers la fin de l'année. Donc, ce conteneur, on le chargerait de matériel qui sera distribué dans les orphelinats, dans les écoles et dans les villages. Donc ça serait des vêtements, des jouets, du matériel scolaire parce qu'il y a énormément de besoins, des lits parapluies, du matériel de puériculture, enfin vraiment plein de choses dont il manque. Et pour que ce projet puisse aboutir, la toute première étape, c'est qu'on arrive à trouver le financement pour acheminer le conteneur jusque Lomé, la capitale du Togo.
Et grosso modo, un conteneur, aujourd'hui, ça coûte quand même un peu d'argent.
Beaucoup d'argent. Parce qu'il y a donc le transport du conteneur jusqu'à la ville où je réside, Neuve-Maison, donc où sera chargé le conteneur le temps d'un week-end. Ensuite, le conteneur repart au Havre. Il fait le transport.
Il prend la Moselle, là ? Il part par la Moselle ou il part
Non, avec un transporteur. Avec un transporteur en camion.
Ouais,
donc, il repart au Havre. Ensuite, le Havre-Lomé, il y a environ 3 semaines de transport. Une fois à Lomé, il y a des frais de douane à payer. Et puis là-haut, il va falloir louer un semi-remorque pour pouvoir aller distribuer le matériel dans les lieux où il y aura les bénéficiaires.
Donc le sujet aujourd'hui, c'est de collecter ces 8000 euros.
Exactement.
Il y a en ligne sur Eloasso un compte qui est ouvert, une cargaison d'espoir, ça
c'est
s'appelle.
C'est tout à fait ça.
Le Togo, c'est à l'initiative d'Aline, Camille et Véro. Et c'est Véro que nous avons à l'antenne aujourd'hui. Alors ça, c'est la partie très visible de l'iceberg. C'est, j'allais dire, l'actu de Véro. Ça c'est, voilà, si vous cherchez l'actu de Véro, vous avez ça. Mais tout ça... Et c'est ça qui m'intéresse dans I Feel Good, c'est le fruit d'un cheminement.
Exactement.
C'est, on en arrive là après pas mal d'expériences et
d'expériences vécu, de vie. Voilà. De maturité.
Et cette rencontre avec l'Afrique, on va en reparler dans quelques instants. Mais Véro, elle est un pur produit lorrain, elle nous vient du Saint-Ouen.
Exactement.
Hein, on va repartir maintenant depuis l'origine. On a fait la pub pour la cargaison et pour le Savas, pour Togo, c'est bon, on a fait le job. On leur fera le job, on va en reparler, mais parce que voilà, c'est quelque chose qui t'anime particulièrement et tu as envie d'associer le plus de gens possible.
Oui.
Mais c'est aussi, c'est là où je voulais en venir un petit peu, c'est le résultat, mais c'est pas la fin, hein, mais c'est le résultat d'un parcours de vie qui t'a fait grandir dans le Saint-Ouen.
Effectivement. Alors moi, j'ai grandi effectivement dans le Saint-Ouen, un tout petit village de 200 habitants. Je viens d'un milieu populaire français, milieu ouvrier. Il n'y avait pas d'ouverture d'esprit. J'ai eu la chance à mes 15 ans, suite au divorce de mes parents, de me retrouver à Vendeuvre. Hein. Alors je dis que c'est une chance parce que ça m'a permis de rencontrer vraiment des personnes de tout horizon, tout milieu, d'avoir un environnement beaucoup plus hétéroclite. Hein. Et notamment à cette époque, j'ai commencé à rencontrer des Africains, d'où ma connaissance de cette culture.
Hein. On dit souvent à Vendeuvre, c'est la ville aux 100 nationalités.
Exactement, exactement. C'est très très riche au niveau culturel, multiculturel. Et donc tout ça m'a permis effectivement d'évoluer énormément, d'autant plus que je n'étais qu'adolescente. Quelques années après...
Alors sortir de Paris-Saint-Césaire, bon, on va donner le village qui est charmant, charmant,
charmant, oui.
Mais sortir de Paris-Saint-Césaire, arriver à Vendeuvre, il peut y avoir un choc plutôt qu'un épanouissement.
Alors bah, pour moi, ça a été un épanouissement. Alors j'ai un choc de quitter ma campagne natale, effectivement. Ouais. Mais ça a été un épanouissement et un enrichissement, réellement.
Par la rencontre des hommes et des femmes, quoi.
Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce qui t'a le plus... Ça a commencé par te dérouter ou ça t'a enthousiasmé tout de suite?
J'ai peut-être été déroutée lors des premières rencontres, parce que c'était du domaine de l'inconnu. Hein, Mais très rapidement, j'ai été curieuse, intéressée, et puis bah, écouter les histoires de vie des uns et des autres, les traditions de leur pays, la culture de leur pays. Je pense que j'ai toujours eu cette soif, en fait, de curiosité. Et ça venait vraiment remplir cette demande, quoi.
Et donc là, si on prend un tout petit peu de temps, c'est que ça fait partie de cette première période de ta vie. Et tu fais partie de ces invités qui ne veulent pas donner de date, mais qui donnent une période. Parce
oui.
que c'est un déménagement, c'est des racines,
ouais.
voilà, dans le rural, tout ça. La vie est ce qu'elle est, et voilà, elle t'a apporté quelque chose. Puis aujourd'hui, découverte à 15 ans d'un autre monde. Et ça se poursuit, c'est pas seulement le fait d'arriver à Vendeuvre. C'est quoi encore?
Eh bien, ça se poursuit parce que quelques années après, donc j'occupe un de mes premiers emplois et je me retrouve dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, à venir en aide aux jeunes qui étaient en recherche d'emploi. Et je me rends compte que vraiment, c'est quelque chose qui m'anime d'aider. Ça, enfin, je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer sur Terre. Et pour moi, ça met du sens. De venir en aide aux autres, ça met vraiment du sens. Et donc là, je me rends compte que c'est quelque chose vraiment qui m'anime, qui me plaît, et que bah, je porte ça en moi.
Alors ça veut dire que c'est les années 90, tu me disais, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. La deuxième moitié des années 90.
Donc là, tu bascules très vite dans le monde professionnel?
Oui.
Comment ça se fait ce choix de vite travailler?
Bah, parce qu'il y en avait le besoin.
Ouais.
C'était par rapport à une situation familiale où il y avait besoin que je travaille rapidement.
Ouais.
Et puis j'ai eu l'opportunité, c'était vraiment le fruit du hasard, même si je pense qu'il n'y a jamais de hasard en réalité. J'ai eu l'opportunité d'occuper cet emploi-là et ça me convenait.
Ce regard positif sur cette période-là, tu n'en sors que du positif, mais quand on t'interroge un tout petit peu, ce n'est pas forcément que du positif, les points de départ. C'est l'arrivée à Vendeuvre, c'est un divorce, le job, c'est par nécessité. C'est cette façon de colorer la vie, c'est une marque de fabrique, c'est une obstination, ou c'est simplement une façon d'être?
Alors, une obstination, je suis quelqu'un d'obstiné, effectivement, mais je pense que c'est aussi une façon d'être. Hein, parce que je suis convaincue que tout ce qu'on traverse, ça n'est que pour du positif, même si sur le moment, ce n'est pas forcément agréable. Derrière, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer.
Merci d'avoir corrigé, parce que j'admettais un avis négatif sur un divorce, sur une obligation de bosser. Pas forcément, mais ça peut être vécu comme quelque chose de difficile à vivre. En tout cas.
Sur l'instant T, c'est pas forcément agréable.
Voilà,
mais
ça,
avec du recul, moi, j'en vois que du positif, parce que je me dis effectivement, je ne serais peut-être pas ouverte l'esprit, je serais peut-être restée dans ma campagne, je ne serais peut-être pas devenue qui je suis.
Donc ces années 90, le monde urbain, le monde multiculturel
oui.
forge, c'est une belle rencontre pour toi.
Exactement.
Qui apporte
tout à fait.
Un bout de sérénité. On en arrive vite à une deuxième date importante
oui.
dans ta vie, c'est autour des années un peu post-Covid, quoi, 21-22.
C'est ça.
Nos amis de la rue.
Oui. Que j'ai intégré. Alors, il faut savoir que depuis 2016, j'ai été dans l'obligation de réduire mon temps de travail pour des problèmes de santé. Donc même si mon emploi me plaît toujours, j'étais plus investie de la même façon. Et en 2022, bah, l'envie d'aider et de me dire, bon, j'ai un petit peu de temps de libre, peut-être qu'avec parcimonie, je pourrais m'investir un peu. Donc je rejoins en tant que bénévole nos amis de la rue, hein, à station qui vient en aide au SDF sur Nancy, dans laquelle je suis restée environ un an et demi. Mais je me suis retrouvée dans l'obligation d'arrêter parce que c'était trop chronophage. D'autant plus que moi, j'ai du mal à faire les choses qu'à moitié. Et bah là, il y avait le public en face qui avait des besoins. Donc, ça demandait énormément de temps. Et par rapport à mes soucis de santé, ce n'était pas compatible. Donc, c'est vrai que j'ai quitté la station assez rapidement. J'ai dû y rester moins de 2 ans.
Pour autant, ça fait partie des dates importantes dans ta vie. Pourquoi ?
Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours cette flamme en moi, cette envie d'aider. Alors, même si je ne peux plus le faire autant qu'auparavant.
La santé est là. Elle
voilà,
limite, hein,
exactement. Père, elle me met des limites. Ah. Mais il y avait toujours, il y a toujours cette étincelle qui est là et toujours cette envie d'aider. Parce que je me dis qu'on peut faire plus et que si tout le monde fait un peu, ben, plein de personnes se porteront mieux. Et qu'en réalité, ça a porté de main de presque, enfin, d'une grande partie de la population. Et en plus, j'étais un peu dans une phase, de par le climat économique, le contexte social, dans une phase où j'avais vraiment le sentiment que les gens étaient tous devenus égoïstes et ne se préoccupaient plus du tout des autres qu'il y avait en face. Et le fait d'avoir rejoint nos amis de la rue, j'ai rencontré plein de belles personnes qui avaient cette volonté aussi de venir en aide. Et ça m'a remis du baume au cœur, on va dire.
Alors, on rencontre qui et comment aux amis de la rue ?
Alors, on rencontre Anne-Lise du Bazar Alizette, qui est formidable, qui s'investit énormément pour venir en aide à tout le monde. On rencontre Jonathan Chaudouin de Wake Up, qui va, pareil, met plein de choses en place.
C'est quoi Wake Up ?
C'est une association qui vient en aide aussi du public en difficulté. On rencontre des personnes du Secours catholique qui vont aider, on rencontre des jeunes étudiants qui viennent participer aux maraudes. Enfin voilà, on rencontre des gens qui ont cette volonté aussi de ne pas laisser les choses dans l'état où elles sont.
Alors ça, c'est le côté accompagnant et du côté accompagné.
Et du côté accompagné, on rencontre des personnes qui sont dans des situations très, très compliquées et très précaires.
Mais pourtant, la rue, ils l'ont choisi.
Non, pas du tout.
Parfois.
Alors, c'est quand même fréquemment des jeunes qui viennent de l'aide sociale de l'enfance ou qui ont eu des problèmes de justice ou suite à un incident de la vie. Hein, ça arrive aussi. On a eu des salariés qui dormaient dans leur voiture, des intérimaires qui n'avaient pas accès au logement. Et on fait de merveilleuses rencontres, notamment un SDF pour qui vraiment je m'étais prise d'affection, qui avait eu un parcours avec l'ASE et qui pour autant...
L'aide
sociale à l'enfance, pardon. Et des personnes qui ont plein de valeurs humaines pour autant. Enfin, c'est pas leur situation sociale qui détermine et ils en sont au quotidien, où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, comment je peux me laver, j'ai pas de téléphone. Alors moi, quand j'entends parler de recherche d'emploi pour les SDF, je me dis, il faudrait que les gens aillent vivre une semaine dans la rue pour se rendre compte que c'est bien plus compliqué que tout ça, quoi. Et oui, on a fait aussi de très très belles rencontres au niveau des accompagnés.
C'est le moment de la pause musicale. Le toi plus moi, il est un peu facile. On a hésité quand tu me l'as dit.
Ouais.
Tu m'as dit, c'est un peu facile le toi plus moi. En même temps, il est un peu facile, peut-être. Et puis si on gommait un peu la volonté de rendre les choses difficiles, si simplement on se prenait le temps de se dire toi plus moi.
Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à 2 à 1000, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Tous ceux
change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Toi, pousse-moi, pousse tous ceux qui le veulent, je suis plus elle. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, d'espoir.
Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes partis dans cet élan et cette interpellation de fraternité avec Grégoire, toi plus moi.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Oui, parce que Grégoire, si on reprend un petit peu, et c'est bien de la fraternité dont il parle. On peut voir l'amour, mais l'amour d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Voilà, c'est aussi l'amour de la fraternité. La fraternité, c'est quand même des mots qu'on ne prononce pas et pour autant qui sont derrière toi, derrière tous ces parcours de vie, derrière toutes ces étapes de vie. Nos amis de la rue, par exemple, ce que tu viens de nous dire. Pourtant, il y a un moment où tu as dû arrêter, tu as fait le choix d'arrêter.
Oui, parce que
vraiment tout près du micro, c'est
j'ai une maladie auto-immune, en fait, qui fait que je suis très vite fatiguée, donc c'est déjà compliqué. Et puis à cela s'ajoutent assez régulièrement d'autres difficultés de santé. Donc, effectivement, une activité trop chronophage. Il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre mon envie d'aider, parce que ben, on n'est pas là pour rien, voilà, mais aussi préserver ma santé.
Ce savant équilibre, il est perturbé à l'été 2024. Perturbé ou au contraire... Nourri, revivifié par un rêve et un nouveau projet.
Ouais. Alors depuis que j'ai une vingtaine d'années.
C'est pour ça que je voulais qu'on parle de la santé, parce que la santé, elle te limite.
Ah, complètement.
Plein de
complètement,
projets.
Complètement.
Voilà, oui. Professionnel, associatif. Et pour autant, tu gardes ce cap-là et t'es 24.
Oui, parce que je suis encore en vie et mon corps me permet encore de faire des choses. Et d'ailleurs, je lui suis extrêmement reconnaissante. Et ok, je l'écoute, mais je peux encore agir, quoi. Donc, il faut y aller.
Alors, on raconte-nous déjà le rêve de l'Afrique.
Alors, le rêve de l'Afrique. Donc, depuis que j'ai une vingtaine d'années, c'est vrai que quand j'ai rencontré des Africains, j'étais un peu sur un fantasme de l'Afrique. Parce que des pays, d'autant plus il y a 25 ans en arrière, qui étaient peu développés, et où il y avait encore un mode de vie très proche de la nature, et avec ce que moi je considère comme des valeurs essentielles. Le partage, la solidarité, l'entraide, et vivre proche de la nature. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'ai aussi une envie forte et profonde d'aider les enfants. Les enfants me font tous fondre, de façon générale, parce que j'estime que chaque adulte est responsable du bien-être de chaque enfant. Ce n'est pas que des nôtres, c'est tout ce qu'on leur apporte, tout ce qu'on leur inculque. Même si on leur sème une petite graine, bah voilà, c'est de notre responsabilité à tous de leur apporter le mieux qu'on puisse leur apporter. Et donc, j'avais ce rêve de faire une mission humanitaire en Afrique.
Donc, c'était pas pour le tourisme, quoi.
Ah non, du tout. C'était vraiment donner... Je n'arrêtais pas de dire que je ne partirais pas de terre sans avoir mis cette petite goutte d'eau dans l'océan. Et j'ai bien conscience que c'est une petite goutte d'eau, mais ça me tenait vraiment à cœur.
Donc là, on revient, mine de rien, discrètement à ton projet, quand même.
Et c'est ça.
C'est une petite goutte d'eau dans un océan. Tu l'assumes pleinement.
Mais oui, totalement. Et donc, ça, voilà, ça faisait des années que j'en avais l'envie. Je n'ai pas pu le faire pour des raisons multiples. Hein, le travail, les enfants, l'aspect financier, enfin, plein de raisons variables. Et l'été dernier, je discute avec une amie de cette envie. Et je vois que mon amie commence à avoir les yeux qui scintillent parce qu'elle était complètement emballée par le projet. Alors elle est un petit peu moins téméraire, on va dire. Je pense qu'elle avait quand même des peurs et des appréhensions. Moi, j'ai un tempérament plutôt fonceuse. Et du coup, c'était, bah, allez hop, c'est parti, on y va. Et en l'espace d'un mois, j'avais pris contact donc, avec Afrique Positive, qui propose des missions de volontariat, des chantiers jeunes, des stages humanitaires. Ils sont très, très investis au Togo. La SOS existe depuis bientôt 20 ans. Ils font énormément de choses. Et donc, on a pris contact avec eux. Le projet s'est complètement monté. Donc, la copine a suivi. Sa fille nous a également accompagnés. Donc, Camille, qui a 24 ans, qui est en études de médecine. La copine, c'est donc Aline. Et puis, nous sommes partis en février. Donc, au Togo, nous avons été accueillis par Afrique Positive, hébergés par la SOS, encadrés au niveau de l'orphelinat, toujours par cette SOS, qui est vraiment d'un sérieux pas
donc
possible.
Donc, cette SOS gère un orphelinat ou...
Alors non, cette SOS est installée en Loire-Atlantique depuis bientôt 20 ans. C'est un Français d'origine togolaise, hein. Et donc il est bénévole, hein. Et il développe plein de choses, hein, au Togo. Et donc, il propose effectivement des missions de volontariat. Il est en partenariat avec des orphelinats. Il ne les gère pas. Il est en partenariat avec plusieurs orphelinats. Nous, on s'est retrouvés à l'orphelinat de Mother Charity. C'est un des plus gros qui est à Lomé. Ils accueillent 130 enfants. Donc, lui, voilà, il propose de mettre à dispo des volontaires. Donc, nous ne sommes restés que 10 jours. Hein, parce que moi, avec mes problèmes de santé, je ne savais pas non plus comment ça allait se dérouler. Et c'était une expérience, bah on a eu un gros choc culturel les premiers jours, parce que les enfants sont déjà en manque d'affection et d'attention, puisqu'on parle d'orphelins, en plus c'est un des plus gros. Donc,
combien d'enfants ?
130.
130.
130, et il y a une antenne qui s'est construite à la frontière du Ghana où il y a 60 ados. Donc c'est quand même énorme. Et choc culturel aussi par rapport au manque de moyens. C'est énorme.
Avant, matériel, moyen, matériel. Pour la nourriture, pour...
Alors, ils ont, dans cet orphelinat, ils ont quand même les 3 repas par jour, mais ils ne mangent que des féculents. La viande, c'est seulement quand il y a des dons. Ils n'ont quasiment pas de matériel scolaire. Il n'y a aucun jouet. Les enfants jouent au foot avec des boules de papier. Voilà. Ouais. Ils ne sont pas éveillés, hein. Enfin, alors, il y avait une garderie et une crèche dans l'orphelinat. Ils n'ont pas de jouets, il n'y a rien. Ils sont à plusieurs dans des lits. Quand il y a des lits, certains dorment par terre.
Il n'y a pas des lits pour tous les enfants ?
Non, il n'y a pas des lits pour tous les enfants. Alors, il faut savoir que les orphelinats au Togo n'ont aucune subvention. Ils ne fonctionnent qu'avec des dons. Il y a plus de 140 orphelinats au Togo.
Il faut juste changer le modèle l'image par rapport au modèle français, en tout cas.
Voilà, c'est ça, voilà. Et pour un pays, en plus, ils ont énormément d'orphelins, alors que le pays est 10 fois plus petit que la France. Ils ont des milliers d'orphelins. Et nous, avant de partir, nous avions réussi à faire une cagnotte, plus le Bazar Alizette nous avait donné une somme pour qu'on achète des cahiers d'apprentissage aux enfants. Donc, pour les classes de maternelle, donc nous sommes arrivés avec nos cahiers d'apprentissage. Les enfants de maternelle étaient ravis. Ils demandaient à continuer à faire les devoirs quand l'activité était terminée. On a aussi offert des vivres à l'orphelinat. Donc, on a été au marché, acheté 100 kilos de riz, de l'huile, du maïs, enfin, pas mal de provisions. On a payé une semaine d'électricité à l'orphelinat. Et on a voulu offrir un repas festif aux enfants. Donc, ils ont eu droit à un repas où il y avait du poulet. Alors, pour l'anecdote, j'ai raconté à une petite fille de 7 ans que le soir, elle allait manger du poulet. Elle m'a regardée avec les yeux écarquillés. Je lui ai expliqué qu'en France, les gens avaient donné de l'argent pour que ce soir, il y ait du poulet. Cet enfant m'a sauté dans les bras en me disant merci. Et ça m'a vraiment énormément touchée, quoi, parce que on se rend compte qu'ils apprécient la moindre chose. Tellement ils ont... Oui, ils n'ont rien. C'est vraiment... Paradoxalement, c'est des enfants... Enfin, une population, je trouve, qui a une joie de vivre. Ils sont... Les Togolais nous disaient, nous, à partir du moment où on fait 2 repas par jour, on va rester joyeux et positif. Hein. Et c'est quelque chose que j'admire. Parce que je me dis que malgré le manque de moyens, les enfants n'ont pas accès aux soins. Enfin, c'est... les couches à l'orphelinat, on ne pouvait pas leur changer tant qu'ils n'avaient pas eu de sel, parce qu'il faut faire le plus longtemps possible avec les couches. Les biberons, toutes les tétines étaient trouées avec des énormes trous d'un centimètre. Il y avait des enfants de 3 semaines qui s'étranglaient avec ces biberons-là, mais ils n'ont pas de tétines de rechange, en sachant qu'on était dans un des orphelinats les mieux lotis.
Madame, mademoiselle, messieurs, c'est pour ça que Véro monte son projet, une cargaison d'espoir sur lequel vous pouvez apporter votre contribution. Aujourd'hui, c'est environ 8000 euros qu'il faut pouvoir collecter pour pouvoir assurer l'acheminement de la cargaison, de l'espoir.
On a déjà 22% de la somme.
Il y a 22%, n'hésitez pas, c'est sur Hello Asso, une cargaison d'espoir, c'est par là que ça passe. Dans un premier temps, c'est de réussir à collecter l'ensemble de l'argent.
Exactement.
Pour pouvoir financer ce transport. Et puis dans un deuxième temps, donc ça on a jusqu'à l'été, voilà. Et puis dans un deuxième temps viendra le temps de collecter, et tu viens d'évoquer
le
matériel dont vous avez besoin. Tu veux peut-être préciser le matériel dont
on
a besoin.
Alors déjà, je souhaite préciser que Afrique Positive, on peut aller consulter leur site internet. Toutes leurs actions sont complètement développées sur le site. Il y a le lien de la cagnotte si les gens ne le retrouvent pas sur Hello Asso. Et donc nous, l'objectif, c'est qu'en juin, voire juillet ou plus tard, on soit au moins à 90% de l'objectif de la cagnotte pour qu'on puisse se dire « Ok, c'est bon, on va pouvoir faire partir le conteneur. » Et de septembre à décembre, faire la récolte de matériel. Donc le matériel, ça va être essentiellement des lits parapluies, des vêtements enfants, adultes, ainsi que des chaussures, des jouets, du matériel scolaire, du matériel d'apprentissage, des frigos pour les orphelinats, des PC portables pour initier aussi les enfants à l'utilisation de l'informatique. Et la liste de matériel sera mise sur le site d'Afrique Positive dès qu'on aura de quoi financer le conteneur. Donc on va dire courant juin, on pourra retrouver la liste de matériel sur Afrique Positive.
Merci Véro d'avoir pris le temps de nous présenter cette envie, cet engagement, ce rêve et puis ce projet qui va devenir une réalité.
C'est moi qui vous remercie.
8000 euros, ça peut aller vite si on s'y met tous un tout petit peu. C'est sur Hello Asso, c'est le nom, une cargaison de l'espoir. Le nom de l'association support, c'est Afrique Positive. Merci et tu as raison, l'Afrique c'est ce bonheur, cette joie, cette énergie, ce sourire. Avec pas grand chose, on fait beaucoup de bonheur.
Oui.
On peut produire beaucoup de bonheur. C'est peut-être un peu le sens de cette musique qui va nous accompagner pour terminer l'émission.